Alors aujourd'hui, le titre de l'enseignement, c'est de la réponse des anges à la réponse des hommes. Hein, ce que je vous ai mis donc sur cette feuille, hein, tout le monde a une feuille. Nous sommes au cinquième enseignement. Oui, en effet, nous nous étions arrêtés au Kyrie, au regret des péchés, et celui qui nous enlève le péché, hein, le péché du monde, c'est le Christ par son incarnation. Et à Noël, nous avons comme tout de suite hein, un Sauveur vous est né. Alors à ce moment-là, les anges vont se mettre à chanter. Vous voyez, comme cette réponse des anges hein, gloire à Dieu au plus haut des cieux, hein, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Aujourd'hui, nous est né un Sauveur. Réponse des anges à cette incarnation, à ce salut. Et le titre continue, hein, de la réponse des anges, le Gloria, à la réponse des hommes. Donc on va travailler sur la parole de Dieu, hein, Dieu qui se révèle à travers des lectures, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et à ces lectures que nous allons entendre, nous allons avoir trois réponses. Qui sont l'homélie, le credo et la prière universelle. Hein. L'homélie, c'est les hommes, le Christ, bien sûr, mais aussi l'Église, qui répond en disant, ben voilà, ta parole, on l'a entendue, et donc nous y répondons en l'actualisant, on le verra tout à l'heure. Le credo, ta parole, elle est très large, et nous la résumons. Hein, nous la simplifions à travers ces 12 articles du Credo. Et puis, ensuite, ta parole, eh bien, nous a montré que tu étais puissant. Et donc, nous te demandons, en réponse à ta parole, eh bien, nous te demandons. Voilà, c'est la prière universelle, hein, comme les trois réponses à cette parole. Mais je reviendrai à chaque fois sur chacun des aspects, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas noté. Alors, ce Gloria, hein, qui vient donc de Luc au chapitre 2, verset 13. Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes, objet de sa complaisance. » Donc, cet hymne est chanté d'abord à partir du VIe siècle, à la messe de Noël, hein, et elle va rentrer progressivement dans la liturgie du dimanche. En fait, on comprend bien le lien entre le Kyrie et le Gloria, parce que j'ai été pardonné, parce que Dieu a fait quelque chose de bon pour moi, je suis comme rené à la vie divine. Eh bien, j'ai envie d'exulter. Le Gloria se chante le dimanche parce que le dimanche, c'est le jour de la résurrection, évidemment. C'est le jour de cette renaissance, c'est le jour où on va faire des baptêmes. Bon. En fait, quand on réfléchit, les deux intentions du sacrifice, hein, de la messe, c'est quoi? C'est de demander pardon. C'est ça, hein. Le sacrifice, il sert à quoi? À nous pardonner, voilà. Enfin, nous avons une vie, une offrande qui va nous réconcilier avec Dieu. Et ça, c'est le premier aspect du sacrifice, est montré dans le Kyrie. Et le deuxième aspect du sacrifice, c'est de quoi? C'est de louer, c'est de bénir, c'est d'adorer Dieu. Et ça, c'est le Gloria. Hein? Le Christ se présente comme celui qui rend gloire à Dieu, qui exulte, qui bénit, qui remercie. Voilà, pour ça qu'on parle de l'Eucharistie comme une action de grâce. C'est le sens du mot Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Voilà, donc c'est important de bien lier ces deux mouvements de la confession à l'exultation. Et puis nous célébrons aussi. En réfléchissant, je vous le disais en introduction, le Gloria est comme la réponse à la naissance de Jésus et aussi comme la réponse à notre propre naissance. Hein? À chaque messe, nous allons renaître. Hein? Et Et en demandant pardon, nous avons été comme replongés dans notre baptême, nous avons été purifiés. Je vous avais parlé du Kyrie comme ce lieu où nous allons revêtir la robe pour les noces, rappelez-vous. J'avais pris Matthieu 22, hein. Tout le monde est invité, mais certains n'ont pas l'habit de noces. Eh bien voilà, j'ai reçu cet habit de noces au début de la messe, et donc je célèbre aussi ma propre naissance. Un père de l'Église disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Hein, » c'est saint Irénée. « La gloire de Dieu, c'est la sanctification de l'homme. » Qu'est-ce qui rend gloire à Dieu? Qu'est-ce qui, comment dire, qu'est-ce qui manifeste la bonté de Dieu? Ben, qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Ou plus largement, voilà. Comment rendre grâce à Dieu, sinon en étant nous-mêmes vivants? En étant nous-mêmes renés, en étant nous-mêmes entrés dans cette renaissance, en étant, voilà, en paix avec nous-mêmes, en étant debout. Bon. Ce Gloria est une prière de louange et aussi d'intercession. On va regarder le texte bien précisément. Hein, en fait, c'est normal quand on réfléchit. L'intercession, c'est donc demander à Dieu. Je peux demander à Dieu des choses parce qu'il est grand et qu'il est puissant. Ça va avec. Je vais pas demander à un pauvre qu'il me donne la richesse. Voilà. Donc à chaque fois, vous voyez, dès qu'on confesse, dès qu'on demande quelque chose, eh bien, on rend gloire à Dieu en quelque sorte. Ça va en même temps les deux. Demander quelque chose, c'est dire implicitement en creux que Dieu est puissant, que Dieu est grand, que Dieu est bon. Comme on disait, parler du péché, c'était implicitement parler de la miséricorde et donc du pardon. Alors je vais lire avec vous ce credo, et puis je vais le commenter au fur et à mesure. Bon. Le Gloria, je veux dire, pardon. Gloire à Dieu, ben je lis et puis je commente. Hein. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Voyez, l'idée, c'est, comment dire, par cette concentration de termes, eh bien, d'entrer dans une certaine jubilation, hein, comme cette source, voilà. Dieu est grand, et puis on n'arrête pas, je voudrais dire ceci, je voudrais dire cela, je n'arrête pas d'avoir des louanges envers mon Seigneur. Et puis, on va détailler ce que nous magnifions. Celui que nous magnifions. Qui es-tu? Je te loue, je te rends grâce, mais qui es-tu? Tu es le Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Oui, j'aurais pu mettre en gras plutôt le Père. Bon. Donc, on commence par le Père. Hein? Et le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers son Fils. Le Messie. Et ce Christ va recevoir tous les titres de la divinité. Seigneur, Fils unique. Phrase suivante. Jésus-Christ, donc le Messie. Seigneur Dieu. Agneau de Dieu, le Fils du Père. Voyez, concentration de tous ces titres. Ce Fils, pourquoi est-il l'agneau? Quelle est l'œuvre du Fils? Eh bien, nous nous tournons vers nous, en regardant ce qu'il a fait pour nous. Et là, toi qui enlèves le péché du monde, voilà ce que tu as fait pour moi. Prends pitié de nous, reçois notre prière. Pourquoi tu peux enlever mon péché? Eh bien, parce que tu es assis à la droite du Père, parce que tu es puissant. Voilà, et je prends la ligne suivante. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Hein? Toi seul es saint, Seigneur, toi seul es le Très-Haut, comme cette triple invocation du Christ qui annonce le Christ dans la Trinité, unis à l'Esprit et au Père. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Ça va? Et donc on termine, vous voyez, par l'Esprit à la fin, hein, cet Esprit Saint. Et on va terminer par la gloire de Dieu le Père. Hein, donc on a commencé le Gloria, gloire à Dieu, on le termine par la gloire de Dieu. On commence, on termine de la même manière. Voilà, ce qui veut dire que c'est un ensemble, ce gloire à Dieu, et donc il est important en liturgie de ne pas le couper par des refrains. Voilà, tous les Gloria avec des refrains sont des... Pourquoi c'est un peu hérétique? Pourquoi? Parce que en fait, ça vous coupe, ça vous fait des morceaux. Mais on rentre dans une dynamique. Voilà, Dieu est puissant, il est bon, et puis ensuite on voit le Père, et ensuite on voit le Père vers le Fils, et le Fils vers nous, et ce qu'il a fait pour nous, etc. Tout ça, vous voyez. Et si vous coupez, eh ben, ça vous voilà. Alors c'est pas toujours bien écrit les Gloria, c'est dommage. Mais c'est mieux normalement de ne pas être coupé. Alors, vous pouvez prendre le texte numéro 2, donc un texte qui explique comment chanter le Gloria. Donc, ça redit ce que je viens de dire, mais c'est pour ça. Hein. Cette gloire à Dieu, comment le chanter? Plutôt la chanter, non? Non? Ah oui, comment le chanter? C'est simple, semble-t-il. Voilà, pas de majuscule. Tout d'une pièce. Et pourtant, actuellement, en France, nous n'avons pas réussi à trouver des airs qui s'imposent facilement dans les différentes assemblées. Pour ne pas réciter platement le Gloria en l'alternant entre le célébrant et l'assemblée, on entrecoupe d'un refrain. Quelle erreur! Bon, pas toujours. Heureusement, non. Maintenant, dans la plupart des cas, dans les nouvelles messes là qui sont composées, on fait attention, mais enfin. Pourquoi? Parce qu'ainsi, on ne respecte pas le style ni la nature de cet hymne, la transformant en chanson à refrain. Une comparaison, pour bien comprendre. Prenez un grand air d'une œuvre lyrique, imaginez qu'au lieu de le chanter, on le récite, et qui plus est, qu'on l'entrecoupe d'une phrase chantée d'un refrain. Dans nos assemblées, la chanson à refrain tend à se substituer aux autres formes lyriques. Si toute prière chantée devient un chant à refrain, n'est-ce pas parce que l'assemblée est supposée incapable d'apprendre? Bon. Donc, vous voyez ce qu'on appelle une hymne ou un hymne. Donc, ça veut dire, ben voilà, un hymne, il n'y a pas de refrain. Bon. Ça, c'est important à intégrer. Voilà. Je vais prendre un stylo parce que. Excusez-moi. Je ne sais plus. Ah, voilà. Je vais prendre un stylo. Des petites corrections, je vois ça, alors je corrige en même temps. Voilà. Alors, ensuite, nous allons entrer dans la collecte. La collecte, une fois qu'on a chanté cette gloire de Dieu, eh bien, nous terminons cette liturgie d'entrée par une collecte ou oraison. Oraison, ça veut dire prière. Voilà. Oraison. Donc le célébrant dit « Prions le Seigneur ». Bon. Alors, vous avez le texte numéro 3 qui explique ce qu'est la collecte. Puis le prêtre invite le peuple à prier et tous avec le prêtre font silence pendant un peu de temps pour prendre conscience qu'ils se tiennent en présence de Dieu et pour mentionner intérieurement leur intention de prière. Puis le prêtre prononce l'oraison appelée habituellement collecte qui exprime le caractère de la célébration. Autrefois, le diacre ajoutait, hein, il ajoutait cette phrase quand on disait prions le Seigneur, il ajoutait fléchissons les genoux. Mais en fait, ce rite-là de demander de fléchir les genoux, donc de supplier de demander, demeure le Vendredi Saint. Rappelez-vous, quand nous avons la grande prière universelle, le Vendredi Saint, eh bien, nous fléchissons le genou. Bon. Alors, vous voyez, on nous dit dans la collecte, le prêtre invite et tous avec le prêtre font silence pendant un peu de temps. Donc normalement, si le prêtre sait bien célébrer la messe, il fait prions le Seigneur, puis là il s'arrête. Et là, il va récolter toutes vos intentions, comme s'il allait passer un chapeau, et chacun à ce moment-là de la messe dépose une intention, qui est une intention personnelle. Hein. C'est pas pareil que la prière universelle. La prière universelle, c'est des intentions beaucoup plus larges pour l'Église, le monde. Bon, ça a une autre fonction. Là, c'est en fait, pourquoi je veux prier? Moi, en tant que prêtre, je présente en général implicitement les gens qui demandent une messe à ce moment-là, voilà, pour qui la messe est célébrée. Mais vous avez peut-être d'autres intentions, je sais pas, pour votre maison qui fonctionne pas bien parce que le toit est troué, pour tout intéresse Dieu. Donc il n'y a pas de mauvaise demande. Alors, voyez là, en quelque sorte, le prêtre se présente un petit peu comme le porte-parole de l'assemblée. Hein, le prêtre joue à ce moment-là un rôle de pontife, c'est-à-dire de pont, entre l'assemblée et Dieu lui-même. Voilà, il va présenter. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux dire aussi sur cette collecte? Alors, elle est en quatre temps, et je vous invite à lire le texte numéro 4 avec moi. Donc, quatre temps. La première partie, 5, pardon, oui. La première partie de la collecte traduit souvent en une seule phrase, sous forme d'action de grâce, un aspect du mystère de Dieu que la liturgie de l'Église nous propose en ce jour à notre méditation. On remarquera que c'est à Dieu le Père qu'est adressée la prière comme toute la messe. On va le voir, on va prier, on va prendre quelques collectes. Ah oui, il faut que je sorte mes livres. Bon. Voilà. Bon. Donc, je vais prendre rituel du mariage. Bon, je n'ai pas mon missel, mais j'ai le rituel du mariage, c'est très bien. C'est pareil. Voilà. Alors, voyez, par exemple, je prends une oraison, donc collecte. Seigneur notre Dieu, puisqu'en créant l'homme et la femme, tu as voulu qu'ils ne fassent plus qu'un. Donc première partie, vous voyez, je donne un aspect du mystère de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Je médite donc sur Dieu. Hein, la prière est adressée à Dieu, le Père, pas adressée à Jésus. Et je regarde Dieu qui crée là. Deuxième, on mentionne ceux qui sont consacrés par cette prière. Hein? Ceux qui sont concernés par cette prière, tu as voulu qu'ils ne fassent plus qu'un, attache l'un à l'autre par un amour sans partage, Nicole et Nicolas qui vont maintenant se marier. Donc vous voyez, je mentionne ceux qui sont concernés, là c'est Nicole et Nicolas qui vont maintenant se marier. Ensuite, je fais une demande. Donne-leur de s'aimer sans aucun égoïsme. Et cette demande est pour un but, une finalité. Donne-leur de s'aimer sans aucun égoïsme pour qu'ils soient les témoins de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, donc qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant maintenant et pour les siècles des siècles. Bon. Donc on termine par cette invocation trinitaire, toujours au Père, par le Fils, dans l'Esprit. Avec la formule pour les siècles des siècles, cela signifie que la souveraineté divine à laquelle nous accédons par la prière dépasse toute durée humaine et nous plonge dans le déploiement de l'histoire jusqu'à son achèvement à la fin des temps, quand l'univers entier sera réuni sous un seul chef, le Christ. Donc ça va, les quatre moments de la collecte? Alors, les cinq à chaque fois, disons. On fait toujours, voyez, on adresse cette prière, c'est comment? Par Jésus-Christ. Tu peux pas aller au Père sans passer par Jésus. C'est pour ça qu'on termine toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Voilà. Alors des fois, il peut y avoir un élément ou plus ou moins, c'est le schéma, voyez, traditionnel. Après, il y a tel ou tel élément qui est plus simplifié on n'a pas toujours un déploiement des 5 moments de la collecte, mais bon, c'est quand même cette idée à chaque fois. Donc, important maintenant, quand nous allons vivre la messe, eh bien, quand il y aura ce prions le Seigneur, eh bien, nous allons déposer une demande. Voilà. Et le prêtre ouvre les bras. Ces bras ouverts, hein, c'est le geste de prière le plus ancien dans l'Église. C'est ce qu'on appelle le geste de l'orant. C'est un geste, en quelque sorte, de non-violence, voilà, hein, d'ouverture, qui rend présent, qui représente aussi le Christ crucifié. Et geste d'adoration, voilà. D'ouverture, d'adoration, voilà. Alors, à la différence, vous voyez, du geste des mains fermées, les mains fermées vont signifier plutôt la soumission, je reçois, je prête fidélité, je prête serment. Hein. Quand j'ai été ordonné prêtre, moi, par exemple, eh bien, j'ai donc dit à mon évêque que je voulais bien lui obéir. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes mains dans ses mains. Voilà, dans cette forme-là, pour bien signifier que voilà, j'étais lié en quelque sorte à lui. Voilà. Voilà. Cette prière, c'est vrai qu'on pourrait cette collecte passer à haute voix. Tout le monde pourrait dire tiens. Ben voilà, moi je prie pour telle chose, je prie pour telle autre, hein, on pourrait imaginer ça. En même temps, on se rend bien compte que il y a des prières qui sont très des choses qui sont aussi très personnelles, que j'ai pas forcément envie que tout le monde sache. C'est pour ça qu'elle a un caractère un peu secret, un peu voilà, personnel. Voilà. Donc, vous voyez, le prêtre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a comme rassemblé ses demandes et il va alors, on a toutes nos demandes, hein, nos désirs très personnels. Il va comme les nouer un peu comme une gerbe. Il va dire, en fait, bon, aujourd'hui, compte tenu de la circonstance, eh bien, c'est bien qu'on demande ça à Dieu. Hein? Alors, quand vous avez là un saint, par exemple, nous disons, Dieu notre Père, tu as donné à, Saint Ignace d'Antioche, voilà, d'être un grand martyr, donne-nous ceci, donne-nous cela. Bon, c'est important, voilà, le prêtre rassemble et dit, bon, ben voilà ce qu'on peut demander quand même à Dieu, c'est, vous voyez là, on était à un mariage, bon, ben on prie pour les époux, quoi, voilà. Hein, bon, tout le monde est d'accord. Et alors, pour dire que tout le monde est d'accord, on dit amen. Hein? Amen, c'est certainement le mot que Marie a dit à Dieu. Hein? Quand on parle du fiat de Marie, bon, c'est très bien le fiat, mais le fiat c'est un mot latin. Donc Marie n'a certainement pas dit fiat, parce qu'elle ne parlait pas le latin. Donc elle a dit amen. Voilà, hein. Donc au début de la célébration, en fait, nous disons oui, ça je veux bien. Donc faut écouter, il y a des oraisons. Seigneur, tu donnes aux martyrs de bien vouloir faire ceci, d'avoir fait ceci, donne-nous de vouloir le vivre. Je dis amen, quoi. Faut pas rigoler avec ça. Voilà. D'accord. Donc si tu es d'accord, voilà, pour faire la route avec le Seigneur, si tu es d'accord, voilà, ben rentre dans la barque et écoute la parole de Dieu. Si tu es pas d'accord, faut sortez. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Bon, nos amens sont toujours sont un peu des ouais plus que des oui, mais enfin ça marche quand même. On peut continuer à écouter. Voilà, et donc on rentre dans la parole de Dieu. Alors, je vais maintenant parler un petit peu de cette parole. Voyez, j'ai dit oui, je veux bien vivre cette aventure. Alors Dieu va me parler, voilà. Bon, Dieu me parle tout le temps, mais en quelque sorte ma bienveillance, mon désir en fait me permet d'écouter Dieu. Dieu veut nous parler. Vous savez que Dieu nous parle d'abord par la création. Hein. On a toujours, en tout cas, l'épître aux Romains dans ses débuts, les premiers chapitres, dit que le païen, celui qui ne connaît pas Dieu, peut découvrir Dieu à travers la création. Hein, le premier livre biblique, c'est l'univers. Bon. Mais en même temps, c'est vrai que l'univers me dit que Dieu existe, qu'il est, mais l'univers me dit pas qui il est. D'accord, hein? Je comprends. Alors, qui il est, c'est pas pareil que qu'il est, hein? L'univers me dit sa puissance, il déploie des tas de choses, il fait des choses très grandes, mais me dit pas son cœur, me dit pas qui est Dieu dans son intime, dans ses sentiments. Cette révélation, donc, à la fois, elle va être progressive, hein. Dieu va d'abord conduire un peuple, hein. Je me révèle en parlant à un peuple, hein, et ce peuple est comme la manifestation de ma présence. Voilà, il est protégé, il est élu, il est choisi. Je lui donne une terre promise. Bon. Et ensuite, Dieu va pas simplement guider un peuple, il va se donner lui-même. Et c'est le Christ. Hein, on pourrait se dire, quand on voit une Bible, hein, en fait, l'Ancien Testament est énorme et le Nouveau Testament est tout petit. Alors, en quoi ces dernières pages sont plus importantes que le reste? Ben, j'ai envie de dire, dans l'Ancien Testament, Dieu parle, mais dans le Nouveau Testament, il s'apporte lui-même. C'est lui-même qui vient. Donc, c'est un saut énorme. Bon. Il n'apporte rien, il s'apporte lui-même, il est la connaissance. Hein? Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il est la révélation, voilà. Celui qui me voit a déjà vu le Père. Donc, avec le Christ, voyez, nous avons comme une supériorité. Supériorité de l'évangile. C'est pour ça que l'évangile est tenu en procession. Les premières lectures ne sont pas tenues en procession, hein. On n'entre pas au début de la messe avec un lectionnaire en procession. On entre avec l'évangéliaire, hein, qui ne contient que les évangiles. Voilà, parce qu'il y a une supériorité de l'évangile. Alors je l'ai mis quelque part, mais je ne sais plus où. Bon. Enfin, on va le voir un peu plus tard, c'est pas grave. Alors, je vous invite à lire le texte numéro 5 sur la parole de Dieu. Dans les lectures, donc la page 2, hein, la table de la parole de Dieu est dressée pour les fidèles et les trésors bibliques leur sont ouverts. Il importe par conséquent d'observer l'ordonnance des lectures bibliques, qui montre bien l'unité de l'un et l'autre testament et de l'histoire du salut. Et il n'est jamais permis de remplacer les lectures et le psaume responsorial qui contiennent la parole de Dieu par d'autres textes non bibliques. Donc ça, c'est là toujours la PGMR, présentation du missel romain. Hein? On est en train de nous dire, en fait, il faut observer l'ordonnance. Voilà, les lectures bibliques, elles ont un ordre, elles ont une unité. Vous avez une première lecture de l'Ancien Testament, vous avez un psaume, une lecture du Nouveau Testament, l'Évangile, et tout ça, c'est un peu comme une symphonie où les éléments se font écho, se rejoignent, s'éclairent mutuellement. Hein? Et c'est ça qui est très beau. En fait, c'est de se rendre compte qu'une parole qui a été écrite il y a, je sais pas, 600 ans avant Jésus-Christ, eh bien, elle explique d'une certaine manière l'Évangile. Vous prenez par exemple la Passion de Jésus. Eh bien, vous dites, mais qui va m'expliquer la passion de Jésus? Eh bien, lis les poèmes du serviteur souffrant en Isaïe 53. Et tu auras, voilà, on nous parle de son dos qu'il montre, qu'il donne à ceux qui le frappent, comme un agneau conduit à l'abattoir. Vous voyez, tous ces grands textes, en fait, ils font écho à l'agneau de Dieu dont on parle dans l'Évangile. Donc voilà, tous ces textes forment une unité. Et la puissance, hein, de cette parole, elle est un petit peu liée à cette unité, hein, comme deux silex, vous voyez, qui sont frottés l'un et l'autre, et qui vont donner ce feu, cette étincelle. Eh bien, les paroles de Dieu entre elles sont frottées, hein, sont mises ensemble, se résonnent, se répercutent les unes les autres, et du coup, eh bien, il y a une lumière qui jaillit de ces échanges. Voilà, cette parole de Dieu, elle nous donne vraiment le Christ. Hein, c'est totalement le Christ. En même temps, elle est aussi, comme disent les pères, l'écume de la mer. C'est-à-dire que, vous voyez, quand nous sommes proches de la mer, nous avons finalement que le bout de la mer, l'écume de la mer, mais c'est vraiment la mer, mais c'est qu'un premier goût. Il est évident que la parole de Dieu, elle nous donne tout Dieu, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'elle creuse davantage en nous un désir de Dieu, plus qu'elle nous comble de ce désir. Hein. Bon. Alors j'aime bien ce petit texte que vous n'avez pas, mais je vous le lis quand même, Maurice Zindel. On a pris les textes et on a cru qu'il suffisait de les lire comme n'importe quel document. On aurait de la même manière confondu le pain eucharistique avec le pain ordinaire. La foi seule, dans les deux cas, peut opérer le discernement. Aussi bien est-ce la même attitude qui est requise pour aborder la doctrine et pour s'approcher du sacrement. Le Christ est vraiment présent dans la parole de Dieu. Hein. On va embrasser ce livre. Je vous lis quelques paroles des pères de l'Église ou du Concile, vous n'avez pas forcément dans vos feuilles. Voilà, le Concile Vatican II sur la liturgie dit: Le Christ est présent dans sa parole, puisque c'est lui-même qui parle lorsque les saintes écritures sont lues à l'Église. Ça, c'est la constitution sur la liturgie au numéro 7. Le Christ est présent dans sa parole. Hugues de Saint-Victor, toute la divine écriture est un seul livre. Et ce livre unique, c'est le Christ. Parce que toute écriture divine parle du Christ et s'accomplit dans le Christ. Voilà, vous savez, nous avons dans la messe quatre baisers. Le baiser de l'autel, hein, on signifie bien le Christ présent au milieu de nous. Le baiser qui embrasse la parole de Dieu comme une seconde présence, le baiser du frère, hein, saluez-vous d'un saint baiser, et ensuite le baiser quand nos lèvres vont toucher le corps de Jésus, hein, l'Eucharistie. Donc le prêtre va embrasser, et ce qui fait que le Concile Vatican II, au numéro 21 de Dei Verbum, va parler des deux tables. Elle dit ceci, le Concile dit ceci: l'Église a toujours vénéré les divines Écritures comme elle l'a toujours fait pour le corps même du Seigneur. Elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Vous voyez, on compare, hein, ces deux lieux, hein, la table de la parole de Dieu et la table qui est l'autel. Or, même l'expression de table est pas terrible en fait, comme s'il y avait, le Christ est un. D'ailleurs, le lectionnaire, l'évangéliaire, pardon, est posé sur l'autel au début de la messe pour montrer que c'est une même nourriture, que voilà, le Christ est un et il se donne à nous. Voilà. Rappelez-vous, hein, cette parole de Dieu comme nourriture, c'est ce que dit Dieu à Jésus quand il est au désert. Hein. Le démon le tente. Et il dit, mais ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. L'homme ne se nourrit pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. C'est important, ça, voilà, de reparler vraiment de la parole de Dieu comme une nourriture. Hein, notamment tous ceux qui ne peuvent pas communier, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce qu'ils sont dans une situation qui ne permet pas de communier, ben, il faut leur dire, vous pouvez communier aux frères, vous pouvez communier à la parole de Dieu. Hein, si on vivait vraiment de la parole de Dieu, en l'écoutant comme une parole transformante, eh bien, nos vies seraient changées. Voilà. Mais peut-être qu'on la lit pas comme une nourriture. Bon. Alors, cette parole de Dieu, vous lirez vous-même le texte numéro 8, hein, sur cette sacramentalité de la parole, je préfère avancer. Cette parole de Dieu, c'est bien, vous voyez, qu'elle soit lue dans l'Église. En quelque sorte, la liturgie, la messe, est le lieu idéal pour entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Écriture, en fait, vient de l'Église. Le Christ n'a rien écrit. Au départ, nous avons des disciples, des apôtres plus exactement, qui sont là et qui vont vivre de la tradition avec un grand T. Ils vont commencer à célébrer la messe comme Jésus leur a montré, et puis suivant la tradition juive, donc ils reprennent des rites juifs. Et à un moment donné, se voyant vieillir, voulant conserver les paroles de Jésus qu'ils avaient notées par écrit, ils ont commencé à construire un évangile. Mais il faut savoir par exemple que les lettres de Paul précèdent les évangiles. Donc le premier récit de l'institution de l'Eucharistie, nous l'avons dans les lettres de Paul et pas dans l'évangile. L'évangile est plus tardif par rapport aux lettres de Paul. Bon, tout ça pour dire, voyez, que la parole de Dieu, c'est deux choses. C'est l'Église qui nous parle, et c'est l'Écriture, l'Évangile, les lettres, bon, ce que vous voulez. Mais nous ne sommes pas qu'une religion, nous ne sommes pas une religion du livre. Voyez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas explicitement dans la... Dans l'écriture, hein, dans la Bible, hein. Le mot Trinité, vous l'avez pas. Il y a pas l'Immaculée Conception, vous l'avez pas dans l'Évangile. Hein. Alors après, oui, on va faire de la théologie à partir de la Bible. Hein. La Bible va être la source de la théologie, l'âme de la théologie. Voilà. Mais c'est l'Église, voyez, qui va, à partir de la parole de Dieu, dire telle ou telle chose. Donc, on peut pas être simplement, ça c'est le drame des protestants, hein, qui disent, mais non, il y a que l'écriture qui compte. Mais, si tu dis il y a que l'écriture qui compte, tu l'as lu où ça, qu'il y a que l'écriture qui compte? Il y a marqué dans la Bible qu'il y a que l'écriture qui compte. Donc, vous voyez, même un protestant, en fait, implicitement, il a une théologie qui lui permet de lire la parole de Dieu d'une certaine manière, puisqu'il vous dit il n'y a que l'écriture qui compte. Donc il a déjà décidé quelque chose. Bon. Voilà. Et puis, donc là, je suis dans le rapport liturgie et parole de Dieu, voilà. Et la deuxième chose, c'est que l'écriture, on s'aperçoit que, les lieux, le lieu où on va d'abord lire l'écriture, c'est la liturgie. Les lettres de Paul étaient lues dans les assemblées, c'est-à-dire ils se réunissaient le dimanche, et puis ils disaient, on a reçu une lettre de Paul, voilà, il nous dit ceci, cela, etc., et on lisait. Donc c'était dans le cadre de la liturgie. Le récit de l'Exode, hein, la Pâque, on va raconter quand on va célébrer le Shabbat et la Pâque juive, eh bien, on va célébrer cette délivrance en mangeant du pain, etc., non fermenté et tout, avec l'agneau. Mais, et dans cette liturgie, on va prendre les textes de l'Exode. Voilà, on va lire. Bon. Les psaumes, c'est pareil. Les psaumes, ils sont écrits pour la liturgie. Vous avez aussi chez saint Paul des hymnes pauliniennes. Donc, lui de condition divine ne retint pas jalousement les rangs qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit prenant la condition d'esclave, etc. Ça, c'est des hymnes. On développe le mystère de l'incarnation. Vous avez plusieurs hymnes. Le début de la lettre aux Éphésiens, c'est une hymne aussi. Eh bien, le genre de l'hymne, c'est bien pour la liturgie. Hein? L'Apocalypse n'est qu'une grande liturgie. Bon. Voilà. Donc, nous ne sommes pas qu'une religion du livre. Je vous invite à relire cette citation en 2 Thessaloniciens 2,15. « Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettre. » Gardez les traditions que vous avez apprises de vive voix ou par lettre. 2 Thessaloniciens 2,15. Hein? Ne vous contentez pas simplement des lettres, gardez aussi les traditions reçues. Hein? Et on s'aperçoit, vous voyez, que les hérésies dans l'Église sont venues par une... On a désolidarisé l'Écriture du lieu qui l'a fait naître. Hein? Comme si on sépare l'enfant de sa mère. Bon. Alors après, la comparaison n'est pas très très juste, parce que l'enfant aussi donne naissance à sa mère, mais enfin bon. Au sens que l'Écriture donne naissance à l'Église, non? Mais voyez, vous dites, ah ben, Jésus, il n'est pas vraiment Dieu, parce qu'il y a marqué dans l'Écriture que le Père est plus grand que moi. Oui, mais si tu lis littéralement la Bible sans l'interpréter à la lumière de l'Église et de la tradition, tu vas te planter. Hein, vous voyez, quelqu'un qui lirait la Bible sans être averti, ben, il va dire, ah ben, le monde, il a été créé en 6 jours parce qu'il a marqué 6 jours. Bon. Enfin, quoique là, normalement, s'il est un petit peu, s'il est lettré, si c'est un homme de lettres, il va découvrir que quand même, la Genèse est un poème, c'est un genre poétique. Donc il y a des genres littéraires particuliers. Le psaume, c'est un autre genre. Jonas, le livre de Jonas, c'est un conte. Donc un homme qui rentre dans une baleine, bon, ça n'a jamais existé. Bon, donc c'est un conte. Donc voilà. Donc c'est important, voilà, de repérer chaque genre littéraire. Voilà. Et dernière chose, la liturgie est le lieu excellence de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la liturgie, la parole de Dieu se fait comme efficace. Hein? Elle s'actualise. Hein? Dieu nous dit des choses dans sa parole. Et donc je dis oui, mais alors comment cette parole va opérer? Comment elle va être efficace? Eh bien, tu as quelques instants après le Christ qui est présent dans l'Eucharistie. Comment il est présent dans l'Eucharistie? Parce que le prêtre reprend la parole de Dieu. Hein, il reprend le récit de l'institution. Et cette parole est tellement puissante qu'elle donne naissance à Jésus sur l'autel. Prenez le texte numéro 9. Voyez? L'Église, après sa mort, continuera de célébrer son repas. La force demeure dans la parole et survit à la mort du Seigneur. Le pain certes disparaît, les fidèles l'ont mangé, mais la parole reste intacte dans sa toute-puissance divine et survit à la mort. Ainsi, par cette force, l'Église pourra toujours à nouveau produire le corps du Christ. Vous voyez, Adrienne von Speer, cette théologienne qui médite sur la Passion, dit en fait, quand le Christ va être emmené et crucifié, il a comme laissé, comme un secret, eh bien, ces paroles de l'institution. Et ces paroles vont permettre de donner naissance à nouveau à Jésus à la messe sur l'autel. Voilà. On a exactement le même parallèle avec la création. Hein, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit faisons l'homme à notre image et l'homme est fait. Il y a quand même quelque chose d'efficace, de spontané. Eh bien, cette parole, vous voyez, dans le premier récit de la Genèse, elle est créatrice. Elle donne la vie. De la même manière, cette parole de Dieu va nous donner la vie. Elle nous transforme, elle est un glaive à deux tranchants, comme dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hein. Elle va pénétrer jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle va me chercher, elle va me structurer, elle va pas m'informer des choses. Elle m'informe pas de telle ou telle chose, elle me forme, elle me réforme. Bon, elle est vivante, cette parole. Voilà. Cette parole, elle est comme une initiation à la Bible. C'est vrai que le lectionnaire, en fait, est une sélection de textes. Il y a des gens, ils sont perdus dans la Bible. Alors, comment je vais faire? Est-ce que je pourrais avoir un manuel qui m'aide à savoir quels sont les grands textes? Ah ben écoute, tu prends un missel. Dans le missel, tu as la sélection de tous les textes importants. C'est important. La liturgie est une catéchèse sur comment lire la Bible. Voilà, avec une répartition très intéressante. Alors, cette répartition, comment c'est structuré? Nous avons 3 années. A, B, C. Ça va? Nous sommes actuellement dans l'année B, donc l'évangile de Marc. Voilà. ABC, voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a 4 évangélistes. Alors, bonne question. En fait, l'évangile de Jean va être réparti tout au long de l'année. Par exemple, parce qu'il n'y a pas suffisamment, comment dire, d'événements dans l'évangile de Jean pour faire une année complète. Et puis, vous avez des grands discours qui sont des véritables catéchèses, en fait. Donc, qui conviennent bien à certains moments de l'année. Par exemple, vous avez les chapitres 14, 15, 16 dans l'évangile de Jean, même 17, qui sont toutes les promesses de l'envoi du Paraclet. Hein? Je vais vous envoyer un paraclet, il sera avec vous, etc. Vous avez tout le chapitre 6 avec la grande catéchèse sur l'Eucharistie, le pain de vie. Donc, après Noël, ou après Pâques, je ne sais plus, enfin bref, non, plutôt après Pâques, eh bien, nous commençons les grandes catéchèses sur l'Eucharistie avec les chapitres 6, voilà, de Saint Jean, en semaine. Et puis, ces catéchèses sur l'Eucharistie sont aussi pendant les vacances, l'été. Bon. Donc, Jean est réparti, voilà, un petit peu tout le temps durant l'année. Vous voyez, dimanche prochain, nous allons avoir l'évangile de Jean, parce que Marc au désert, ben, ça vous fait 8 versets dans l'évangile de Marc, mais après, vous passez tout de suite au baptême et c'est fini. C'est toujours très court chez Saint-Marc. Donc là, on va développer cette préparation avec Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'on nous remet un second épisode avec Jean-Baptiste dimanche prochain. Voilà, 3 années. Et la semaine, vous avez 2 années la semaine. Donc les années père et impair. Je le dis parce que c'est pas forcément connu. Ce qui veut dire que quand je vais lire à la messe, l'évangile sera toujours le même. Hein. Par contre, je repère bien si je suis en année pair ou impair. Vous avez un coup sur 15 où la personne se trompe. Elle va lire lettre de Saint Paul aux Galates. Non, c'est le livre de la sagesse. Ah, ben oui, mais t'as pas repéré que t'avais année pair, tu tournais la page, t'avais année impair, et ensuite l'évangile qui reste le même. Le but, c'est que dans l'année, en semaine, on ait lu les 4 évangiles. Voilà, ça revient. Tous les ans, on a les 4 évangiles. On commence par Marc, Matthieu, et Luc et Jean, pareil, qui est mis un peu à droite à gauche. Et année père et impair. Donc, repérez bien, quand vous allez lire, que vous n'avez pas votre priant en église avec vous, bon, parce que c'est bien de l'avoir, de ne pas l'avoir avec soi d'ailleurs, enfin... À la messe, normalement, l'idéal, c'est de pas lire sur son bouquin. Pourquoi? Parce que, je dis ça, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Parce que c'est une parole vivante, voyez. Le prêtre va lire, ou le diacre va lire sur un livre, un beau livre. Pourquoi il va lire sur un beau livre? Il pourrait apprendre par cœur, hein, pourquoi pas. Mais pour bien montrer qu'il reçoit cette parole. Alors, d'où la lecture, si je lis en levant la tête tout le temps, là, pour faire semblant que je fais du théâtre. Non, pas besoin de lever la tête tout le temps. Tu lèves la tête au début, au milieu du texte, si tu veux, une fois, pour reprendre contact avec ton auditoire. Mais c'est tout. Parce que si tu veux, comme si tu connaissais cette parole, comme si tu allais nous dire que cette parole était la tienne. Elle n'est pas la tienne. Elle est celle de l'Église que tu reçois. Donc c'est pour ça que tu lis le texte. Voilà. Et donc, si je lis dans un livre, je suis en train de dire qu'en fait, la parole, c'est quelque chose d'écrit, au sens un bouquin. Non, c'est quelque chose qui se reçoit. La foi naît de ce qu'on entend. Romains 10. La foi, la parole de Dieu, elle est d'abord, comment dire, donnée par l'Église. Mais l'Église, c'est vivant, c'est des personnes. Vous saisissez ? Quelque chose de vivant. Bon, maintenant, si la sono est pas bonne, si vraiment ça vous aide, bah, lisez, priez en église. Ouf, ça va. C'est bon. Bon. Alors, sur le fonctionnement des 3 textes, d'abord, donc, une première lecture, tirée de l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament, c'est plutôt... je lis ce texte de Grégoire de Nazianze, que vous n'avez pas. L'Ancien Testament a clairement manifesté le Père, obscurément le Fils. Le Nouveau Testament a révélé le Fils et insinué la divinité de l'Esprit. Aujourd'hui, l'Esprit vit parmi nous et il se fait plus clairement connaître. Hein, il y a une logique, voilà. Dans l'Ancien Testament, on va voir le Père, voilà. Hein, il manifeste le Père qui dirige, qui conduit son peuple. Le Nouveau Testament, c'est clairement le Fils. Alors, en même temps, vous allez me dire, mais c'est curieux parce que c'est pas tout à fait dans l'ordre. Puisque nous avons première lecture Ancien Testament, deuxième lecture, elle est tirée soit des Actes des Apôtres, soit des lettres de Paul. Mais les lettres de Paul ou les Actes des Apôtres, c'est après l'Évangile. Donc on devrait avoir Ancien Testament, Évangile, lettre de Paul. Oui, mais attendez, rappelez-vous, on veut montrer la supériorité de l'Évangile. Donc en quelque sorte, les lettres de Paul ou les actes des apôtres, c'est un petit peu l'Église. On parle de l'Église. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle comprend la parole de Dieu? Vous voyez, les lettres de Paul, ce sont des méditations théologiques. Il fait de la théologie, saint Paul. Des questions pastorales, voilà. Donc voilà, c'est la communauté. Et cette communauté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte le Christ. Donc le Christ, c'est vraiment ce qui vient en dernier, à travers l'Évangile. Pour ça que là, on va se mettre debout. On ne se met pas debout pour les lectures. Hein? L'attitude des lectures, on est là, on médite, on goûte, voilà. Mais on attend, on a soif. Et quand l'Évangile va être lu, c'est le Christ lui-même, qui est là. Alors, je vous renvoie au Concile Vatican II. Hein. Tous ces textes-là, vous les avez sur Internet gratuitement. Dei Verbum, numéro 15. L'économie de l'Ancien Testament avait pour raison d'être majeure, de préparer l'avènement du Christ, sauveur du monde, et d'annoncer prophétiquement cet avènement. Et de le signifier par diverses figures. Voilà, l'Ancien Testament était là simplement pour annoncer, pour signifier. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors si on a l'Évangile, ça suffit peut-être. Pourquoi il faut des textes de l'Ancien Testament? Puisque tout d'un coup, avec l'Évangile, on a tout. Oui, mais tu ne peux pas comprendre ce que Jésus accomplit si tu ne vois pas les promesses. Je ne peux pas comprendre que quand Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, ben je ne peux pas voir ce que c'est et comprendre ce que c'est que l'agneau de Dieu si je n'ai pas derrière le sacrifice d'Isaac. Donc j'ai besoin des figures, j'ai besoin de l'Ancien Testament pour comprendre cet accomplissement. Voilà. J'ai besoin aussi de l'Ancien Testament pour comprendre mon histoire. Quand je suis baptisé, j'entre dans la grande histoire d'Israël. Et donc, ben, c'est l'histoire de famille. Hein. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père, c'est Abraham. Bon, c'est important ça. Voilà. Alors le psaume. Le psaume, j'en ai pas parlé, c'est une méditation amoureuse. Prenez le texte numéro 11. La fonction du psaume. Texte numéro 11. La première lecture est suivie du psaume responsorial ou graduel qui fait partie intégrante de la liturgie de la parole et a une grande importance liturgique et pastorale, car il favorise la méditation de la parole de Dieu. Le psaume responsorial correspond à chaque lecture et se prend d'ordinaire dans le lectionnaire. Il importe que le psaume responsorial soit chanté au moins pour ce qui est de la réponse du peuple. Le psalmiste ou chantre du psaume exécute les versets du psaume à l'ambon ou à un autre endroit approprié, tandis que toute l'assemblée est assise et écoute. Habituellement, celle-ci participe par un refrain, à moins que le psaume ne soit dit de manière suivie, c'est-à-dire sans reprise d'un refrain. Si le psaume n'est pas chanté, on le récitera de la manière la plus apte à favoriser la méditation de la parole de Dieu. Donc, vous voyez, on est en train de nous dire plusieurs choses. D'abord, il favorise la méditation de la parole de Dieu. Ça veut dire que le psaume va être une méditation de la première lecture. Alors, je prends des exemples. En quoi le psaume nous permet de méditer la première lecture? Alors, je vais préparer les choses. Alors, voilà, 27e du dimanche ordinaire, année A. Bon. Alors, je crois, lecture du livre d'Isaïe, chapitre 5. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre, etc. Hein? C'est le peuple d'Israël comparé à une vigne. Ça vous rappelle quelque chose? Isaïe 5. Qu'est-ce que j'ai comme psaume? J'ai le psaume 79. Qu'est-ce qu'il dit ce psaume? La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déblaies le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Ça, c'est le psaume. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent ton chemin. Là, vous avez un très bon exemple. Isaïe 5 parle de la vigne. Psaume 79 parle de la vigne. Je prends un autre. Alors, 30e dimanche du temps ordinaire. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage, chapitre 35. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte de la veuve. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai comme psaume? Psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Et on nous parle des pauvres. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris, le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toute leur angoisse il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Hein? Donc on nous dit, le Seigneur s'occupe des pauvres, et voilà dans le psaume redit un petit peu la même chose à sa façon. Ça va? Donc alors des fois c'est plus ou moins clair, on dit tiens, là je vois vraiment la réponse, des fois... Des fois, c'est moins clair. Bon. Ben, j'essaierai ce soir de faire le lien avec le psaume. Tiens, voilà. Bon, faut pas que j'oublie. Sinon, à la fin de l'homélie, vous me dites, hein, alors le lien avec le psaume, il est où? Bon, d'accord. Bon. Voilà. Donc, voyez, c'est important, nous dit le texte de la présentation du missel romain, que ça soit chanté. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est que chaque psaume soit chanté. Donc, à la messe, on les lit. Alors, quand les gens ne les lisent pas, enfin, des fois, on les lit, puis il y a l'organiste qui fait un petit air pour, hein, qui a un caractère un peu festif. Mais, et vous voyez, le chant, ça dit bien la réponse, la tendresse de la bien-aimée, de l'épouse qui parle à son époux. Donc, il y a quelque chose de d'assez féminin, en fait, dans le psaume. Moi, j'aime bien que les psaumes soient chantés par des dames, parce que je trouve que ça dit ce caractère un peu de réponse. C'est le dialogue entre l'époux et l'épouse. L'époux a donné sa parole. Hein? Le lecteur, normalement, les lecteurs, vous savez que le lectorat est un, comment dire, un ministère, voilà, institué. On est institué lecteur. Bon. Donc on est institué lecteur. Et donc, d'une certaine manière, le lecteur va représenter, d'une certaine manière, un petit peu l'époux qui donne cette parole, et du coup, voilà, l'épouse va répondre. Hein. J'ai entendu ta parole, moi je te réponds souvent de prière. Hein. Le psaume, c'est la première lecture redonnée sous forme de prière. Voilà. Voyez, on parle toujours de la fille de Sion. On va jamais parler du fils de Sion. Hein, c'est des termes qu'on voit dans la Bible, bon, qui nous parlent de ce caractère féminin. Voilà, la deuxième lecture, j'en ai déjà parlé, ces situations concrètes, voilà. Et donc, ensuite, nous avons l'Alléluia. Alléluia. Alors, Alléluia, ça veut dire louer le Seigneur. Alléluia. Ya comme Yahvé, hein. Bon, les premières lettres du tétragramme. Louer le Seigneur. C'est pas pareil que Hosanna, hein, qui veut dire Dieu sauve. Donc ça, c'est la jubilation, alléluia, voilà. Et en grégorien, on va toujours accentuer cette dernière syllabe, le ya. Alléluia. On rentre dans la jubilation. C'est pour ça que, vous voyez, on va garder cet alléluia que pendant le carême, on ne chante pas, on est dans la pénitence. Et quand le Christ va ressusciter, alors là, on va jubiler, ah, voilà. Bon. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un texte, le texte numéro 12, mais que vous lirez chez vous, où Saint Augustin parle de cette jubilation. Et le chant, à un moment donné, il va se perdre comme un petit peu dans ce chant lent, dans cette jubilation pure, on n'a plus envie de prononcer quoi que ce soit. Et nous faisons les trois croix, hein, sur la tête, sur le cœur, sur les lèvres. hein, reprenant en quelque sorte le Shema Israël, hein. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, Deutéronome 6,4. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Donc je demande que mon intelligence comprenne cette parole. Je demande que ma bouche redise cette parole et je me demande que mon cœur médite cette parole. Et entre les deux Alléluia, vous avez une petite phrase qui en quelque sorte va donner l'interprétation de la parole possible. Je prends un exemple, ce qu'on appelle le verset alléluiatique. Ce verset, il est chanté par le chantre ou la chorale. C'est pas au diacre de le lire, hein. Bon. Alors je prends par exemple le mercredi de la 20e semaine du temps ordinaire. Qu'est-ce que j'ai comme évangile? Matthieu chapitre 20. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers. Vous vous rappelez, c'est cette parabole où vous avez différents ouvriers, il y en a un qui arrive à 8h du matin, l'autre à 18h, ils ont tous le même salaire. D'accord? Et nous, on se dit intérieurement, ce n'est pas juste. Parce que vraiment, ils pourraient quand même donner plus à... Bon. Qu'est-ce que j'ai comme verset alléluiatique? Entre les deux Alléluia, j'ai Psaume 144, un petit verset. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Il est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Intéressant. Vous voyez, on est en train de me dire, attends, tu vas penser qu'il n'est pas juste, le bon Dieu, mais si, le Seigneur est vrai, il est juste, il est fidèle. Il est fidèle, il s'est engagé à donner un denier au petit matin, au soir, ben, il donne bien à ceux à qui il a promis le denier. Et puis les autres, il leur donne ce qu'il veut, pareil, mais voilà, il n'y a pas d'injustice. Il a été juste et fidèle par rapport à la somme voilà, qu'il a engagée pour chacun. Voilà, ce petit verset, il va voilà, pointer. Moi, j'aime bien, vous voyez, dans la procession de l'Évangile, on va chanter l'Alléluia une fois, on va le chanter une deuxième fois. Pourquoi deux fois? Pour permettre au diacre d'arriver au centre. Voilà, il est au centre, il tient l'évangélière, là. Et à ce moment-là, on va dire la parole. Tu es fidèle, Seigneur, en tes voies. Ta parole est délivrance pour notre route. On voit avec nos yeux cette parole et on entend quelque chose qui va avec cette parole. Je sais pas, vous voyez, le verset alléluiatique nous dit quelque chose de la parole qu'on va entendre. Donc c'est important, voilà. On est là, on regarde et on entend ce petit verset alléluiatique, qui est une diminution, en fait, du psaume, parce que avant, nous avions ce qu'on appelle, je l'ai plus sous la main là. Bon, enfin, le trait. Donc, c'était tout ce psaume chanté qui était beaucoup plus long et qu'on a réduit à un simple verset. Alors, sur l'Évangile, je voudrais dire deux petits mots. Hein. L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, oui, mais c'est un petit peu réducteur. Le mot évangile, vous l'avez dans Luc au chapitre 2, verset 10. Luc 2, 10. Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie. C'est plutôt la traduction littérale, c'est voici que je vous évangélise une grande joie. Le mot annonce pourrait être, à la place, faut mettre plutôt je vous évangélise, je vous donne un évangile. Une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Donc vous avez ce mot évangile et ce mot annonce. Comment faisait-on l'annonce d'un empereur, la naissance d'un empereur à l'époque de Jésus? On annonçait la naissance de l'empereur par cette formule, je cite, la divine providence nous a suscité un sauveur. Aujourd'hui commence l'évangile qu'il nous apporte. Voyez, au temps de Jésus, quand on annonçait la naissance d'un grand personnage, un empereur, on disait, la divine providence nous a suscité un sauveur. Aujourd'hui commence l'évangile qu'il nous apporte. Donc ça veut dire que l'évangile, un évangile, c'était une annonce, l'annonce d'un roi. Donc il pouvait, durant sa vie, amener tel ou tel évangile, telle ou telle annonce importante. Et cette annonce, elle avait comme caractéristique de s'impliquer. Il avait un caractère, on pourrait dire, performatif. Ce que demande l'empereur, il faut le vivre, il faut l'appliquer. C'est un évangile. Alors c'est ça qui est intéressant. Et alors, quand on nous parlait de la naissance de quelqu'un, on nous disait « voici notre sauveur ». Donc quand l'évangéliste Luc, à Noël, dit « la divine providence nous a suscité un sauveur », c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les rois, les empereurs, en fait, ne sont pas des sauveurs. C'est lui le véritable sauveur, c'est l'enfant dans la crèche. Aujourd'hui commence l'évangile qui nous apporte. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Jésus, en fait, c'est la véritable bonne nouvelle qui va vraiment s'appliquer, c'est-à-dire qui va vraiment être efficace, qui va vraiment transformer les gens. Vous voyez, l'empereur, il essayait d'appliquer les choses, mais en fait, elles étaient plus ou moins efficaces. Là, il y a quelque chose qui va s'appliquer. Pourquoi? Parce que on nous dit qu'il est un sauveur, mais il va vraiment nous sauver. Voilà. Donc vous voyez, dans cet évangile de Luc, il y a un caractère un petit peu polémique, une intention polémique derrière ces premiers versets de l'évangile de Luc. Voilà. Alors, le prêtre ou le diacre vont être bénis. Le diacre, qu'est-ce qu'il va dire? Bénissez-moi, Père, hein, voilà. Et à ce moment-là, le prêtre dit « Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, pour que vous proclamiez la bonne nouvelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et le prêtre, lui, s'incline devant l'autel et dit « Purifie mon cœur, Dieu très saint, pour que je fasse entendre à mes frères la bonne nouvelle. » Et après la lecture, le prêtre, dans son cœur, dit « Que cet évangile efface nos péchés. » Tout ça, c'est des choses que vous n'entendez pas, mais que je vous dis aujourd'hui. Hein. Cet évangile, il a une force, il a une puissance, qu'il efface nos péchés. Voilà. Rappelez-vous, Jean chapitre 15, « Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Hein, » comme si la parole avait une efficacité, elle pouvait déjà nous rendre immaculés. Et ensuite, nous avons l'homélie. Alors je termine les 5 dernières minutes, j'aurai 5 minutes de retard, je suis un peu désolé. J'ai mal géré mon temps. L'homélie, je vais dire quelques mots sur l'homélie. Ça vous concerne moins parce que vous ne faites pas d'homélie. En même temps, vous adressez aussi, vous faites de la catéchèse pour certains. Et donc, les propriétés de l'homélie sont les mêmes propriétés que la catéchèse. La première homélie, c'est Jésus lui-même qui l'a fait au chapitre 4, verset 21 de Saint-Luc. Il va ouvrir le livre et alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Rappelez-vous ce passage, il ouvre le livre d'Isaïe, et il dit, je suis venu annoncer une bonne nouvelle pour que les boiteux marchent, que les aveugles voient, etc. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles cette parole de l'Écriture. Il va actualiser en quelque sorte le Christ en disant, c'est maintenant que ça se réalise. Et c'est ça la fonction de l'homélie, c'est de montrer en quoi cette parole qui est ancienne, eh bien elle s'accomplit, elle est efficace, elle est pour aujourd'hui. Le mot homélie, ça vient de homilia. Homilia, en grec, signifie un entretien en société. Donc c'est un entretien, c'est une conversation. Hein, c'est pas une harangue, une adresse publicitaire, un discours. Oui. Frères et sœurs, vous qui êtes, nanana. Oui, mais c'est pas une conversation. Il faut que tu sois dans le genre de la conversation. Hein. Bon. Une bonne homélie, il me semble, en lisant les textes, en faisant une petite synthèse, elle doit avoir 4 qualités. Elle doit avoir un contenu clair et nouveau. Elle doit avoir une dimension morale, une dimension affective et un lien avec l'Eucharistie. Alors je vais reprendre les 4 éléments un par un. Une bonne homélie, c'est un contenu clair et nouveau. Vous voyez, on nous parle du Christ qui enseignait avec autorité. Pas comme les scribes. Ça veut dire quoi? Les scribes, ils font que répéter. Hein, ils répètent les choses. Les scribes, on leur a dit, d'ailleurs, c'est comme ça que Jésus parle. Hein. on vous a dit ceci, cela. Eh bien, moi, je vous dis. Moi, je vous fais entrer dans la nouveauté. Voilà. Et c'est ça l'homélie. L'homélie, c'est pas de répéter le texte qui a déjà été lu. Le Seigneur nous dit dans cette parole qu'il ne faut pas juger. Oui, mais en fait, c'était marqué. Pourquoi tu nous le redis? Ça sert à rien. Oui, donc il faut montrer que la parole est nouvelle, que ce que Jésus dit, c'est nouveau. C'est original. Et l'homélie va aussi clarifier les notions. Quand il y a des textes difficiles, bah, le truc difficile, je sais pas quoi, si tu viens à pécher, enlève-toi l'œil, il bah, faut que tu expliques ce que ça veut dire d'enlever l'œil. Est-ce qu'il faut qu'on sorte tous borgnes de la... Bon, vous voyez, alors si le prêtre, dès qu'il y a des trucs difficiles, il fait l'impasse, eh bien, on dit, écoutez, nous, on donne plus à la quête, là, c'est terminé. Hein, bon. Vous nous roulez. Il faut lui dire à la fin de la messe. Vous allez lui dire, vous allez dire, nous avons pas expliqué, vous n'avez pas expliqué là ce qui était difficile. Bon. Deuxième dimension de l'homélie, après la dimension de nouveauté, d'explication, il y a une dimension morale. Hein? Ce qu'on appelle une dimension parénétique, hein? La parénèse, la morale. Un petit peu comme fait saint Paul aussi dans sa lettre aux Romains. Vous savez que les 11 premiers chapitres de la lettre aux Romains sont sur des éléments de théologie. Et au chapitre 12, il dit « Bon, maintenant que je vous ai expliqué le mystère de Dieu, offrez vos personnes en hostie vivante. » C'est là le culte spirituel. Donc il faut que cette parole, elle nous engage. Il faut qu'on se dise « Mais en fait, j'ai entendu ça et ça me met en mouvement sur tel ou tel point. » Dimension morale. Voilà, et c'est ça l'homélie. Troisième dimension, une dimension affective. Je reprends ce que dit la joie de l'évangile au numéro 157, donc dans le texte de du pape François, vous avez toute une explication de ce que c'est qu'une homélie. Et il dit ceci, une bonne homélie, comme me disait un vieux maître, doit contenir une idée, un sentiment, une image. Une idée, un sentiment, une image. Donc ça, faut arriver à faire des images, des paraboles, c'est pas facile. Le pape François en fait beaucoup, hein. Il dit, je sais pas quoi, n'ayez pas des airs de carême en temps de Pâques. Enfin, oui, il a des slogans, ou n'ayez pas un air de poisson, de, comment dire, de vinaigre. Oui, alors il dit là, lundi, il a dit, ne soyez pas, l'église ne doit pas être comme une vieille fille, mais plutôt comme une mère qui donne la vie. Donc, vous voyez, il compare la vieille fille, la mère, bon. Donc, un sentiment. Il doit y avoir un sentiment, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, vous voyez, le prêtre aussi doit être un petit peu affecté, doit être touché lui-même, parce qu'il dit, il y a quelque chose d'affectif aussi. Si je vous dis, je vous fais une homélie sur les pauvres, et je vous dis, frères et sœurs, il nous faut aimer les pauvres. Vous savez que c'est Noël, et là, voilà, le pauvre est quelqu'un de riche. Le pauvre nous apporte toute richesse, puisque quand on voit un pauvre, on voit le Christ. Vous comprenez, mes frères? Vous dites, mais le prêtre, là, il est en train de nous exhorter, mais ça sonne creux. Il n'est pas touché lui-même par le mystère. On nous dit de Jésus qu'il enseignait avec autorité, et les gens étaient attachés à ses lèvres. Donc, il faut que son cœur, il pleure aussi. Un peu, s'il pleure pas. Mais il peut pas faire semblant de pleurer. S'il fait semblant, ça marche pas. Hein. Bon. Voilà. Donc, je vous renvoie au texte numéro 157, là, de la joie de l'évangile, qui nous parle de ça. Et puis, après la dimension affective, cette homélie doit nous conduire au Christ. Elle fait le lien entre donc le lien avec l'Eucharistie, voilà. Donc c'est important que voilà, mais on a parlé du Seigneur Jésus dans l'Évangile, etc. Mais comment ça peut nous acheminer vers l'Eucharistie? Alors je vous renvoie au texte, peut-être, et puis je vais conclure avec ça ou presque, non? Enfin non, je vais pas. Vous allez lire chez vous là ce texte-là, le texte numéro 15. Le texte numéro 15, donc c'est Benoît XVI, Verbum Domini. Voilà, et puis je vais terminer par le texte numéro 16, ça me plaît bien, la pauvreté du prédicateur. Voilà. En fait, le prédicateur est quelqu'un qui dit quelque chose qu'il ne vit pas lui-même. C'est très important. Donc c'est pour ça que le prédicateur est un peu un hypocrite. Alors voilà ce que dit Timothy Radcliffe. Nous avons souvent peur, si l'on nous voit tels que nous sommes, d'être discrédités en tant que témoins. Qui sait si on ne va pas me montrer du doigt comme hypocrite ? Nous avons peur, la plupart d'entre nous, d'être des imposteurs. Mais les prédicateurs sont des hypocrites professionnels. Ce que nous prêchons le mieux, c'est ce que nous ne réussissons pas à vivre et à quoi pourtant nous aspirons. Simon Tugdual soutient qu'il ne s'agit pas simplement d'une regrettable infirmité du malheureux prédicateur, mais qu'elle fait partie intégrante de sa vocation. C'est ce qui garantit, pour ainsi dire, que toute excellence se verra référée à Dieu et non à lui. S'il y a crise de la prédication aujourd'hui, c'est peut-être que nous avons peur d'être honnêtes, honnêtes dans l'aveu de nos doutes, nos questions et même notre faiblesse. Voilà, le prédicateur est celui qui est honnête, vous voyez, qui se mouille un petit peu et qui dit, ben voilà, en fait, moi, j'aimerais vivre ça, en fait. Pour la paroisse, nous devrions vivre ça et nous n'y arrivons pas. Pas quelqu'un qui exhorte au sens « il faut, il faut, il faut ». Alors tu dis « il faut », mais tu ne le vis même pas toi-même. Mais aussi, sois franc et dis-le que tu n'y arrives pas. Oui. La faiblesse du prédicateur est parfois plus parlante qu'une exhortation à distance où il ne s'implique pas lui-même. Quand vous faites un petit enseignement, plus vous impliquez vous-même en étant vulnérable, en parlant aussi de votre propre pauvreté, eh bien plus vous allez toucher les gens, hein. C'est ce qu'on reproche aux pharisiens, hein. Ils disent mais ils ne font pas, hein. Ils sont à distance, voilà. Le pape François, qu'est-ce qu'il dit? Moi j'ai parlé de la confession. Ben, avant de parler de la confession, je vais aller me confesser. Comme ça les gens vont me voir me confesser. Du coup ça va parler plus qu'une homélie. Donc il a bien compris que la prédication passe par lui-même. C'est lui-même dans sa chair, en étant affecté, en étant lui-même touché par le mystère de la miséricorde, qui va pouvoir parler de la miséricorde. Voilà, voilà. J'ai fini. Amen. Alléluia.